Voici Philippe Quentin.
15h25, Philippe, le Canadien, avant Noël, a subi une glissade, une suite de défaites extrêmement inquiétantes. Je pense qu'on s'était rendu à 8 défaites,
c'est
ça? Là, on est rendu à 6 avec la défaite d'hier.
Oui, on est rendu à 6 et je pense qu'il faut être réaliste. Là, une participation aux séries éliminatoires, ça va être très, très difficile, sinon impossible. Bien sûr, on est loin encore de l'élimination mathématique, mais il en reste pas moins qu'on le sait que quand une équipe accuse un retard aussi important, c'est très, très difficile de le combler, surtout que le Canadien n'est pas une puissance de la Ligue nationale. Alors hier, ça fait très mal. De nouveau, une 6e défaite consécutive. La bonne nouvelle, il y en a une quand même, c'est qu'Ilya Kovalchuk a joué un fort match, très impressionnant. Il a mis de l'énergie dans l'édifice aussi.
Il t'a impressionné, toi?
Oui, tout à fait. Il a été bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Il a été très énergique. Même, je pense qu'il aurait pu mériter une punition là, tout à coup en troisième période quand il a foncé vers le filet adverse. Et finalement, c'est lui qui est rentré dans le but plutôt que la rondelle. On pensait peut-être que le Canadien venait d'égaler la marque, mais non. Mais c'est quand même le genre de jeu qu'il a offert pendant la soirée. Alors, beaucoup d'engagement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cela dit, ça n'a pas été suffisant pour que le Canadien l'emporte. Et il y a eu des erreurs hier. Et Claude Julien l'a noté après le match. Et deux de ces erreurs-là ont été commises par des recrues, Nick Suzuki et Cale Fleury. Ça a conduit à des buts de l'adversaire. Et il y a un collègue après le match qui a demandé à Claude Julien, oui, mais ce sont des recrues là, qui ont fait les erreurs. Alors, jusqu'à quel point tout ça est significatif? On écoute sa réponse.
Ça c'est aujourd'hui. Les autres matchs, il y a eu la même chose. Là, puis c'était pas seulement que des jeunes. Là, c'est le genre d'erreur qu'on fait dernièrement qui nous coûte. Alors, c'est pas pour pointer le doigt nécessairement à l'individu, mais c'est pour pointer le doigt à ce qui nous coûte des matchs dernièrement. C'est le genre d'erreur qu'on fait.
Alors voilà, c'est les erreurs, oui, les jeunes, mais il y a des vétérans qui en ont fait aussi. Et Claude Julien en parle depuis tellement longtemps maintenant de ces erreurs-là, des mauvais choix avec la rondelle. Et on sait que ça coûte aux Canadiens. Mais tout ça ne doit pas maquiller l'essentiel, c'est que c'est une équipe qui manque de ressources. Oui, on va dire il y a des blessés. Gallagher n'est pas là, Armia n'est pas là, Drouin n'est pas là. C'est vrai, mais encore une fois, Patrick, il faut en prendre et en laisser. Parce que oui, depuis que Drouin n'est pas là, ça va très mal. Mais tu parlais de la série de 8 revers plus tôt, là, avant Noël. Gallagher et Armia étaient là à ce moment-là. Alors, il ne faudrait pas non plus mettre les blessures pour tout expliquer. Là, je trouve que c'est un peu facile et on sent que la direction du Canadien s'engage déjà dans cette voie-là. Moi, je trouve que depuis quelques années, le Canadien a développé une expertise dans les excuses et moi, ça commence à me fatiguer un petit peu.
Très bien dit. Penses-tu que le Canadien, demain, va avoir des excuses pour une défaite ce soir contre Détroit?
S'il y a un match qu'il ne faut pas échapper, là, je sais, on dit ça souvent, mais c'est bien celui de ce soir à Détroit contre la pire équipe de la Ligue nationale. Patrick, pas la pire équipe là par peu. Non, la pire équipe de manière convaincante. Oui, de loin. Les Red Wings ont 23 points au classement. Si on parle de classement de toute la Ligue nationale, ils sont au 31e et dernier rang. Les Devils du New Jersey les précèdent à l'avant-dernier rang. Ils ont 13 points de plus. Ils ont 5 victoires de plus. Alors donc, l'écart est important. Alors, on a vraiment là une équipe qui est pas très bonne, les Red Wings de Détroit. Alors, s'il fallait que le Canadien échappe ce match-là, je pense qu'au point de vue psychologique, ça ferait un tort immense.
OK, et Nashville a congédié son entraîneur Peter Laviolette. Oui. Tu vois un lien avec Piqué Subban?
Ben, tu me permettras quand même de noter. Il y a tellement de gens qui ont dit que Piqué Subban avec les Prédateurs, sa contribution était un peu surévaluée, puis qu'au fond, c'était le gros trio de défenseurs, Roman Josey, Ryan Ellis, Mathias Edcom. C'était eux autres qui tenaient le fort, puis que dès qu'ils ont pu se débarrasser de Subban, ils l'ont fait, puis ils ont embauché Matt Duchene avec cet argent-là. Je trouve ça quand même ironique de constater que Subban n'est plus là. Les Prédateurs ne sont plus la même équipe. Ils sont à l'heure actuelle à l'extérieur des séries. Si ça commençait aujourd'hui, ils ne seraient pas qualifiés. Congédie leur entraîneur, ça va mal à Nashville. Je ne dis pas que l'absence de Subban explique ça. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis quand même que sa contribution avec les Prédateurs a été pas mal plus importante que ceux qui n'aiment pas beaucoup Piqué Subban l'ont laissé entendre au cours des dernières années.
Tu sais, tu parlais de la propension du Canadien à se trouver des excuses. Ouais. Je deviens expert là-dedans. Je pense que les gens qui n'aiment pas Piqué Subban sont très bons pour lui trouver des défauts.
Oui, tout à fait. Exactement. Puis là, c'est vrai que ça ne va pas très bien pour lui cette année. Puis on va parler de la transaction Weber Weber Subban. Puis là, j'entends partout le Canadien a gagné cette transaction-là. Mais non, le Canadien n'a pas encore gagné cette transaction-là. On en est à la quatrième année. Les Prédateurs ont clairement gagné l'an 1, sont allés en finale de la Coupe Stanley, puis Subban était candidat au trophée Norris. L'an 2, ils ont encore gagné les Prédateurs. L'an 3, c'était l'an dernier, match nul. Cette année, ça semble-t-il, c'est le Canadien qui va emporter. Alors, sur 4 ans, là, je vois pas comment on peut dire que le Canadien est gagnant de cette transaction-là. Je te dis pas qu'il est perdant de façon épouvantable. Weber joue bien cette année, puis c'est une belle
attitude
d'équipe.
Ben oui,
mais
ben oui.
On peut pas parler d'un vol non plus dans cette transaction-là.
OK, tu veux me parler d'un scandale en haltérophilie.
Oui, tout à fait. C'est la chaîne de télé allemande ARD qui a sorti un documentaire dimanche soir, un coup de poing sur une situation en haltérophilie qui met en cause la Fédération internationale. Et là, juste pour situer ARD, c'est la première entreprise médiatique qui a écrit sur le scandale de dopage en Russie. C'est ça qui a un peu ouvert les portes vers le témoignage de Grigory Rodchenkov. Tu te souviens, dans une entrevue au New York Times, où il avait levé le voile sur tout ce qui s'était produit en Russie pendant les Jeux olympiques de Sochi, le transfert des échantillons contaminés pour des échantillons propres.
À travers une petite porte dans le mur.
Ben, c'est un petit trou dans le mur qu'on avait caché par un petit meuble, une petite table. Là, c'était des histoires de films. Mais tout le coup d'envoi avait vraiment été donné par cette chaîne-là. Alors, elle continue d'enquêter avec beaucoup de panache. Et là, a sorti donc cette histoire qui ébranle le monde olympique. Une histoire qui met en cause la Fédération internationale d'haltérophilie. Il y a deux angles dans tout ça. D'abord, on dit que la Fédération internationale aurait travaillé pour éviter que les haltérophiles subissent des tests inopinés. On dit que sur les 450 médaillés dans les championnats du monde et les Jeux olympiques, entre 2008 et 2018, il y a la moitié de ces médaillés-là qui n'ont jamais subi de contrôle inopiné de dopage l'année où ils sont montés sur le podium. Alors,
c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Et tout au niveau du dopage, puis on aurait commencé même dans certains pays à doper, en Thaïlande notamment, des enfants très jeunes quand ils commençaient à faire de l'haltérophilie. Et à ça s'ajoute un volet financier. Parce que comment ça fonctionne? Les fédérations, une partie de leur financement, les fédérations internationales, elles reçoivent de l'argent du Comité international olympique. C'est leur quote-part après la tenue des Jeux olympiques. Alors, les Jeux olympiques, on fait de l'argent avec ça. Et que fait le CIO? Le CIO, lui, redistribue cet argent-là aux différentes fédérations de façon à favoriser le développement du sport partout sur la planète. Alors, qu'est-ce que la Fédération internationale d'haltérophilie a fait avec sa quote-part? Ben, selon la chaîne de télé allemande ARD, il y aurait des fonds qui auraient été dirigés dans des comptes bancaires en Suisse, dirigés par le président de la fédération. Celui-ci nie évidemment ces allégations-là. Mais là, l'Agence mondiale antidopage va enquêter, le Comité international olympique va enquêter, donc un nouveau dossier là, qui met en cause le sport international qui vient de s'ouvrir.
Très bien, Philippe, on te retrouve autour de table. Merci. À venir à l'émission, Julie Le Breton de l'émission Épidémie, la nouvelle série de TVA qui commence ce soir 21h. Julie Le Breton va être avec nous au Québec maintenant pour la dernière demi-heure. Et après la pause, comment est-ce que le monde réagirait si un nouveau Jésus se présentait parmi nous? C'est le thème d'une nouvelle série sur Netflix. On en parle avec Catherine Beauchamp. Il est 15h33.